du Mékong à la Méditerranée, des femmes laotiennes dans le sud-est de la France. Les Boat People qui sont venus à pied.
Mais vous êtes français, rentrez chez vous. Bon voilà, on est français, on rentre chez nous. Et quand on arrive en France, on dit mais qui êtes-vous, d'où venez-vous?
En 1954, la France perdait sa guerre de décolonisation en Indochine. C'était le début de la guerre du Vietnam, qui opposerait le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est, de 1955 à 1975. On connaît les clichés américains de cette histoire véhiculée à outrance par la machine hollywoodienne. Des GIs rampant dans la boue et faisant sauter des villages entiers d'innocents à coups de grenades et de napalm, et revenant au pays avec la psychose de guerre du vétéran, quand il revenait. Cette guerre s'est officiellement déroulée au Vietnam, mais en réalité, c'est toute la péninsule indochinoise qui a été touchée. Ainsi, plus de 2 millions de tonnes de bombes seront larguées sur le Laos entre 1964 et 1973 par l'armée américaine, soit la plus grande quantité par habitant jamais lâchée sur un pays. La défaite des Américains en Indochine verra le Pathet Lao, le parti communiste local, s'installer au pouvoir au Laos en 1975, mettant fin au système monarchique. Dirigeants, fonctionnaires, intellectuels, agents de l'Occident recrutés par la CIA au sein des minorités ethniques, des centaines de milliers de personnes ont alors fui le pays. Beaucoup, après un long périple, ont atterri en France. La mémoire collective s'en souvient sous le terme générique de « Boat People », qui faisait référence aux Vietnamiens qui avaient dû fuir leur pays par voie maritime. Le Laos, quant à lui, n'a jamais eu accès à la mer, et ses ressortissants sont donc partis à pied, traversant d'abord le Mékong pour se rendre en Thaïlande, puis de là, dans différents pays d'accueil, dont la France. Plus de 30 ans après, la légendaire et mystérieuse Indochine n'est pas si loin dans les mémoires françaises. En témoigne encore l'une des sculptures du grand escalier de la gare Saint-Charles à Marseille, érigée dans les années 20. Livrée au regard des métropolitains, une statue représentant une femme de type asiatique au sein nu, entourée de produits exotiques et d'enfants. Une femme alanguie, femme colonisée, femme offerte, comme le relève justement Catherine Maran-Fouquet. Gravé dans le socle de cette statue, on peut lire la légende simple et révélatrice « Colonie d'Asie ». Comment expliquer qu'aucun coup de burin institutionnel ou clandestin ne soit encore venu effacer cette inscription plus de 50 ans après l'indépendance officielle de l'Indochine ? Son Asie, la France semble en avoir été fière, comme en ont témoigné les grandes expositions coloniales de 1906 et 1922, qui ont toutes les deux eu lieu à Marseille et qui comportaient pléthore d'attractions dites asiatiques. Au nombre desquelles, une reconstitution des temples d'Angkor, joyaux du patrimoine monumental khmer, et des balades en pousse-pousse conduites par d'authentiques tonkinois. Certaines cartes postales de l'événement de 1906 ont fait fureur. Un certain monsieur Raquez, photographe voyageur qui eut son heure de gloire, présente sans doute sans penser à mal une ribambelle de portraits en buste de femmes laotiennes au sein quasiment toujours nu, spécimens de différentes ethnies indochinoises qui seront exhibées aux yeux de l'Occident comme des propriétés pittoresques de l'Empire français. Femme du Laos qui avait déjà passé plus de 30 ans de votre vie en France, j'ai voulu qu'on vous entende, loin des clichés coloniaux, avec votre accent mi-lao, mi-provençal, dérouler ce fil invisible qui vous relie encore à l'autre côté de la planète. Plus de 30 ans après votre départ de votre pays d'origine, qu'êtes-vous devenu? Comment vous êtes-vous adapté? Quelle est votre vie aujourd'hui? Comment la mémoire collective élaborée en exil a-t-elle travaillé? Quelle identité pour vos descendants?
Oui, mais mon père, il était diplomate, en fait. Il a été ministre, diplomate, et mon grand-père, il était...
Anita, arrivée en 1974.
Premier ministre, à l'époque des... Voilà, voilà, donc... On se retrouve tous ici. Mon père, le plus drôle, c'est que mon grand-père, il était anti-français. Parce qu'à l'époque, il y avait la colonisation française, donc il était parmi les premiers à vouloir... vouloir inviter les Français à partir, nous laisser le pays. Et ensuite, il y avait eu les Américains à partir de 1954 avec cette histoire de Dien-Bien-Phu, avec tout ça. Donc, ils sont partis en laissant la place aux Américains. Donc, les Américains sont arrivés. Bon, au moins, il n'y avait plus de colonialisme. Par contre, mon père, il a bien profité, si tu veux, le fait que pendant la période de la colonisation, il avait pu avoir des bourses pour aller faire des études, ce qui fait qu'il a pu avoir des fonctions. Il s'est mis dans la politique et ensuite, il a gravi les échelons. Mais c'est toujours des partis, hein, de toute façon. Il a fini par être ambassadeur vers la fin, quoi. Bon, il représentait le pays, mais il n'avait pas de parti. Bon, il était royaliste, si tu veux, parce qu'il était au Laos à l'époque. Donc, il est resté au pays, mais sans être inquiété, si tu veux. Bon, il était âgé, mais il n'a pas été vraiment inquiété. Donc, il a pu vivre jusqu'à 74 ans, où il est mort, quoi. Quand il est mort, mais...
Voilà. Lui, il a pu rester...
Oui, il est resté.
Et toi, tu t'es retrouvée ici un peu par hasard, c'est ça ?
Oui, je suis arrivée en 1974, justement pour faire les études, pour travailler à la télévision laotienne. Et en 1975, il y avait eu ce changement, ce qui fait que je suis restée bloquée. Si bloquée, j'aurais pu retourner, mais vu la situation, on ne savait pas ce qui se passait. Bon, on m'a conseillé, disons mon père, il m'a conseillé de rester déjà pour voir ce qui va se passer par la suite. Parce que j'ai encore mes frères, il y avait tout le monde qui a été là-bas, j'imagine la situation, quoi. Donc on était restés pendant 10 ans, ouais.
Sans vous voir.
Oui.
Est laotien et ma mère est française.
Manoli, née en France.
Donc mon père vient de Paxé, de Champasak. Il est arrivé dans les années 70 pour ses études, pour faire ses études supérieures, puisqu'en fait il est allé dans l'école nationale à Vientiane parce que il est bourse d'études, etc., pour continuer le lycée puis la faculté. Et à ce moment-là, il a obtenu une bourse pour partir à l'étranger. Donc il a choisi la France et il est arrivé dans les années 70, exactement, je ne sais pas. Il a rencontré ma mère au cours de ses études, donc à la faculté sur Grenoble, donc quand il était étudiant à Grenoble. Ils ont eu directement un premier enfant, enfin directement, après quelques années. Et ensuite, c'était en 73, il voulait retourner au Laos, vivre là-bas. Donc ils sont retournés, donc ils sont installés à Vientiane. Et donc ma sœur est née là-bas, moi je suis la dernière. Et ensuite, en 75, quand elle est née, elle avait quelques mois, avec le régime communiste qui est arrivé, ils ont dû partir. C'était vraiment au dernier moment, ils sont partis en fait le dernier jour. C'était le jour où toutes les frontières fermées, et ils ont pris le dernier avion. Ma mère est partie avant avec ma petite sœur et mon frère, et mon père les a rejoints le lendemain. Et je crois qu'il a eu vraiment de justesse l'un des derniers avions qui partait, qui en fait pouvait sortir des frontières. Et donc ils sont passés par la Russie, Moscou, en escale, et ensuite ils sont venus en France. Ça a duré vraiment un moment parce que ont pris la décision de partir parce que ma mère étant française, ils ont pu avoir des informations venant de France. Mais les informations qu'ils avaient sinon directement à Vientiane permettaient pas de savoir réellement ce qui se passait parce que c'était des informations tronquées. Et pour eux, ils avaient l'impression qu'il n'y avait rien de grave ou d'important qui se passait. Et par contre, les parents donc de ma mère, enfin donc la famille, via d'autres informations venant de l'étranger, leur ont dit non, ce qui arrive est vraiment important. Nous, on n'a pas du tout les mêmes informations que vous. Il faut que vous partiez, quoi. Et donc, comme ils ne sentaient pas du tout à ce moment-là, là où ils étaient à Vientiane, il n'y avait pas de signe apparent de quelque chose d'un bouleversement, en tout cas politique, et puis quelque chose d'important qui arrivait. Ils savaient vraiment pas quoi faire parce qu'eux voulaient rester, vivre là-bas. Et donc, ils ont décidé de partir.
Pourquoi on est venu en France ?
Madame Nine et sa fille Gisèle, arrivées en 1959.
C'était en 1954. Les Français sont invités à regagner leur logis. À regagner leur logis à la France. Et l'indépendance du Laos. Et ainsi que tous les Français d'origine et les ressortissants français. Ils ne veulent pas d'étrangers au Laos. Alors, c'est en 1959, nous sommes les derniers à partir d'ailleurs. Du côté de mon mari, le grand-père.
Je peux peut-être le raconter, ça.
Oui.
Pour expliquer le fait de notre retour, parce qu'il faut appeler ça un retour en France, nous qui n'avions jamais vu la France, moi, je suis née française. Je suis la quatrième génération de cette famille Nine de Français. Puisque mon père est né français, mon grand-père est né français, c'est mon arrière-grand-père qui s'est fait naturaliser, non pas parce qu'il le désirait réellement, mais ça a été, il le désirait certainement, mais ça a été une récompense de la France pour le remercier de tous les services qu'il avait rendus à la France par l'intermédiaire d'un explorateur qui se nommait Auguste Pavy. Ils se sont rencontrés au Cambodge et comme il était interprète, il a accompagné au Laos et c'est ainsi que s'est retrouvée fondée la branche française, si vous voulez, de la famille Nine. Parce qu'il existe trois branches. Il existe une branche cambodgienne, qui est venue nous rejoindre d'ailleurs dans la région grenobloise. Et il y a une branche laotienne qui, malheureusement, n'a pas de descendants. Et c'est comme ça que nous sommes français. Et le jour où on est venu, bon, ça, c'est un souvenir de petite fille. J'ai entendu les conversations des grandes personnes. J'ai entendu, mais vous êtes français, rentrez chez vous. Alors voilà, on est français, on rentre chez nous. Et quand on arrive en France, on dit, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ah, c'est ça, être apatride, ne pas savoir où on est, qui on est. On est en France, qui êtes-vous? On retourne au Laos, on dit, mais qui êtes-vous? Vous êtes des étrangers pour nous, bon. Et c'est assez difficile à vivre. Je pense que c'est difficile, surtout difficile à vivre pour des adultes comme nos parents. Ça a été difficile à vivre pour nous, les aînés des enfants, parce qu'on était quand même conscients de beaucoup de choses. Les plus jeunes ont été moins atteints, ont été moins perturbés. Voilà. Voilà le pourquoi de notre arrivée en France.
En fait, ils sont tous arrivés, la grande majorité.
Catherine Chorombet, anthropologue au laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS.
Ils sont arrivés à partir de l'été 75, on va dire, quoi, puisque en fait, C'est une migration qui est consécutive au changement de régime hein, dans les trois pays de la péninsule. Et donc, en fait, à partir de mars-avril 1975, il y a eu des flots de réfugiés qui sont d'abord, pour ceux qui venaient en tout cas du Cambodge et du Laos, passés par la Thaïlande, et qui était donc un premier pays d'accueil, on appelait ça le premier pays, et donc ils sont restés des temps plus ou moins longs dans ces les camps de réfugiés qui ont été mis en place par l'ONU, par le l'UNHCR. Ils sont restés un certain temps là, en attendant qu'un troisième pays veuille bien les accueillir. Et les Vietnamiens, eux, c'est un peu différent parce que les Vietnamiens ont fui plutôt par mer et donc eux étaient dispatchés dans des camps plutôt vers la Malaisie ou, et ont fait des parcours un peu différents. Mais en tout cas, par exemple, pour le Laos, en avril 1975, il y a eu la proclamation de la République démocratique populaire, la chute de la monarchie. Et donc, il y a immédiatement des flux, notamment des gens qui avaient des liens assez forts avec l'ancien régime, qui sont tout de suite partis, puis qui en avaient les moyens, parce que à ce moment-là, quand même, ils sont partis très très vite. Ils se sont réfugiés en Thaïlande, ou ils sont venus parfois directement en France. Et puis après, dans toutes les années, donc à partir de la fin de l'année 75 jusqu'en gros début des années 80, ça s'est étalé, quoi. Et donc il y avait des gens qui arrivaient en provenance des trois pays. Pour ceux qui concernent les Laotiens, ils sont donc en général, hein, la plupart des Laotiens sont passés par les camps de Ubon Ratchathani dans le nord-est de la Thaïlande et à Nong Khai. Et donc là, il y avait deux énormes camps qui sont constitués. Celui de Ubon, moi je l'ai bien connu parce que en fait, le gouvernement thaïlandais a réutilisé un ancien camp militaire américain de la période de la guerre du Vietnam, où étaient basées les troupes américaines. Ils ont réaménagé à toute vitesse cette espèce d'énorme terrain où il y avait déjà quelques infrastructures. Et donc, les réfugiés étaient accueillis là. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours eu des liens très, très forts entre les Laotiens, enfin, donc les Lao du Laos, et la population du nord-est de la Thaïlande. Très souvent, il y avait même des liens familiaux. Hein. Donc, il y a une partie des réfugiés du Laos, en fait, qui se sont fondus dans la population thaïlandaise du nord-est. À peu près, on estime 70 000, 80 000 personnes. Et puis, ceux qui ont eu moins de chance, donc, ils sont partis en camp. Mais c'était à l'époque des camps avec Mirador, fermés, etc. Les conditions étaient très difficiles. Hein.
Et qu'est-ce qui a motivé ces gens alors à fuir
En fait, au départ, enfin, les premières vagues migratoires donc, qui sont parties dès 1975, c'était des gens qui fuyaient le changement de régime, hein, qui fuyaient et qui avaient à craindre réellement, qui étaient véritablement des réfugiés politiques, hein, qui craignaient pour leur sécurité, qui pouvaient être envoyés en séminaire de rééducation politique dans le nord du pays, comme ça a été le cas pour le roi et la reine, d'ailleurs. Hein. Et donc, qui sont partis vraiment sous la menace, quoi. Et donc, ils fuyaient dans des conditions assez précaires. Et puis, petit à petit, la composition, on va dire, socio-professionnelle des vagues a changé, quoi. C'est-à-dire que dans un premier temps, donc, ça a été un peu tous les anciens hauts fonctionnaires, les militaires gradés, etc., tous les gens qui avaient collaboré au régime monarchique, qui sont partis. Et puis, dans les années suivantes, et c'est souvent d'ailleurs aussi ces gens-là qui ont stagné pendant un certain temps dans les camps de réfugiés en Thaïlande, ça a été les couches moyennes, des riziculteurs qui fuyaient alors pas tant pour des questions de politique, mais qui fuyaient les réformes économiques, quoi, c'est-à-dire la collectivisation des terres, parce que en fait le Laos a passé toute une période où d'abord le pays s'est complètement fermé, hein, les frontières ont été fermées, ils ont collectivisé les terres et en même temps il y a eu une pénurie alimentaire très très difficile, des mauvaises récoltes, etc. Donc les gens fuyaient la misère et les conditions économiques. Et ceux-là ont eu évidemment beaucoup plus de difficultés à obtenir un visa pour un pays tiers, parce que très souvent, ils ne parlaient aucune langue occidentale, alors que les premiers partis, très souvent, avaient fait des études en France, ou donc parlaient français. Et donc, beaucoup de ceux-là sont arrivés en France fin des années 70, alors que les gens d'origine rurale ont eu beaucoup plus de difficultés à trouver un accueil dans un pays tiers, et déjà parce qu'il y avait une barrière de la langue terrible, quoi.
Nathalie, rencontrée à la pagode bouddhiste de Marseille.
Vous avez été accueillie comment ?
Accueillie très très bien.
Dans des centres d'accueil ou comment ?
Oui, au foyer d'un centre d'accueil, après dans un foyer. On est arrivé à Paris, on nous a très bien accueillis. Donc quand on était revenu, bon, c'est vrai que c'est un peu dur parce qu'on ne savait pas parler français, tout ça. On essaye de s'intégrer, mais maintenant, oui, ça va, on arrive à s'intégrer.
Et vos parents, qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme métier en arrivant ici ?
Ils ont fait un peu de tout. Ma mère n'a pas travaillé, mon père, oui. Et qu'il a trouvé travail, n'importe quel travail, il travaille tout, tout, tout.
Il faisait quoi
Il travaille dans le bureau, administration.
D'accord.
Ouais, et je sais, c'est pas... Mais bon, quand vous arrivez dans un pays, déjà, c'est un pays qui nous accueille, qui nous adore, c'est déjà gentil de leur part. Et de pouvoir nous intégrer, avoir tout ce qu'il faut, tout ça.
Et votre ami est resté dans la région parisienne au début?
On était un mois à Paris, après on est descendu vers le sud. Marseille.
Et donc votre papa, il faisait quoi comme travail
Dans la métallurgie.
Dans la métallurgie.
Oui, c'est très dur, mais l'important c'est de pouvoir travailler.
Et vous étiez de Vientiane ?
De Vientiane, oui. Et nous, on vient tous ici en France. Oui. Et la moitié par un point d'Amérique.
Ta dame vit près de Marseille.
En 70, je souris à tout le monde. Qu'est-ce qui me prenne comme une femme facile? Je ne savais pas. Mon Dieu.
Tu parlais à tout le monde, c'est vrai?
Non, je souris à tout le monde. Eh bien oui. Et jusqu'au jour qu'il y a un homme qui est venu chez moi frapper à ma porte pour dire « je voudrais du café ». Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, j'ai expliqué, quoi. Au Laos, on est comme ça. C'est pas pour vous inviter de venir boire du café chez moi, comme mon mari n'est pas là. Tu comprends? C'est ce que je lui ai dit. Mais alors là, il était surpris, parce que ça n'existe pas en France, ça, j'ai dit.
Alors la France a été parmi les pays principaux...
Catherine Chorombet.
...hôtes, je vais dire, de ces populations-là, bah, en raison des liens historiques qu'elle avait avec elle. Bah, c'était des anciennes colonies, hein. Enfin, c'était des protectorats. Donc en fait, les trois pays qui les ont accueillis massivement, ça a été les États-Unis, le Canada et la France. Je crois qu'à l'époque, même la France était en seconde position. Et il y avait évidemment des critères, notamment linguistiques, qui jouaient, et puis les questions de rapprochement de famille, quoi. Et puis, mais la France a eu pendant, on peut dire, la deuxième moitié des années 70, une position plutôt accueillante, on va dire, puisque même... à la différence des États-Unis, il y avait des consignes pour accepter, y compris des gens qui pouvaient être estropiés. Et il y en avait beaucoup en provenance du Cambodge, par exemple, des victimes des Khmers rouges, qui avaient des gens malades, etc. La France avait comme ligne de conduite de les accueillir quand même. Ils étaient dans un premier temps arrêtés en Thaïlande comme clandestins, mis dans ces camps, en quarantaine, etc. Et ensuite, il y avait presque tous les jours des espèces d'auditions qui étaient organisées par les pays d'accueil, donc essentiellement les États-Unis et la France. Et les familles candidates au départ passé une espèce d'entretien, quoi. Où là, donc, on vérifiait à la fois les situations familiales, les compétences linguistiques, les formations professionnelles, etc. Étudier les profils, quoi. Et donc, on a accueilli en France. Alors, en France, on avait mis en place une association qui s'appelle France Terre d'Asile, avait mis en place tout un dispositif d'accueil, donc avec tout un réseau de foyers d'hébergement pour eux, et donc et avait établi une politique de quotas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant au moins 4 ou 5 années une moyenne de 1000 à 2000 personnes qui arrivaient par mois. De la Thaïlande, ils étaient d'abord dirigés sur, puisqu'ils étaient dans le nord-est essentiellement, hein, donc ils étaient dirigés sur Bangkok, ils restaient quelques jours à Bangkok, et puis des avions étaient affrétés, ils arrivaient à Roissy, et ils étaient dirigés vers ce qu'on appelait à l'époque un centre de transit à Créteil, donc qui les recevait pour les premiers jours en France, avec contrôle sanitaire, etc. Et donc, ils restaient une semaine, quoi, à peu près, à Créteil. Et ensuite, ils étaient envoyés par Créteil dans les foyers, dans les centres d'hébergement qui avaient été ouverts un peu partout en France. Alors, il y avait des gros centres. Hein, et ce qui fait d'ailleurs que, du coup, on a eu aussi des implantations autour de ces centres plus importantes qui expliquent qu'on ait des communautés, par exemple, laotiennes, relativement concentrée dans certains endroits, et notamment évidemment en région parisienne, parce qu'il y avait autour de Paris plusieurs gros centres d'hébergement, mais il y en avait aussi à Rennes, il y en avait à Marseille, à Montpellier, à Limoges, il y avait un gros centre plutôt pour des minorités, pour les Hmongs. Et la tâche des foyers, des centres provisoires d'hébergement, c'était donc de les garder maximum 6 mois, et pendant ces 6 mois, de faire une alphabétisation en français et éventuellement une formation professionnelle, la scolarisation des enfants, et les aider à trouver un emploi et un logement. Et donc, bon, il y a eu des familles qui sont restées plus longtemps que ça, mais dans l'ensemble, ça s'est assez vite résorbé, ça se résorbait assez vite, quoi. Il n'y avait pas de tradition de diaspora, quoi, absolument pas. En 75, avant que commence ce mouvement d'exode là, lié au changement de régime, il y avait à tout casser 1000 Laotiens en France, mm-hmm. qui étaient des gens qui étaient venus faire des études, études supérieures. Alors c'est très difficile de les dénombrer maintenant exactement, parce que beaucoup ont pris la nationalité française depuis, donc les enfants, etc., sont français. Les associations Lao elles-mêmes, elles s'auto-estimaient dans les années où moi j'ai fait mon travail de terrain. Elle s'auto-estimait, disons, dans les années 85, à peu près, hein, dans ces années-là, à 30-35 000 en France, d'ethnie Lao. Parce que le problème, évidemment, c'est qu'il faut quand même faire la distinction entre les Lao et les Laotiens. Hein. Les gens de nationalité laotienne peuvent appartenir à des minorités ethniques. Et donc, ceux qui appartiennent à l'ethnie majoritaire du Laos, donc les Lao, vont penser être 30-35 000. Mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que je pense qu'il y a cet inconnu-là. Et maintenant, alors je pense que c'est très très difficile de savoir exactement combien ils sont, quoi. Les seules statistiques qu'on avait, c'était celles du Haut Commissariat pour les réfugiés, et puis le ministère de l'Intérieur et l'OFPRA, hein, l'Office pour les réfugiés et les apatrides. Et donc, mais l'OFPRA, je pense que ces chiffres étaient quand même justement pas mal biaisés par cette question de la nationalité ou de l'ethnie d'origine. Et puis, par très vite, les histoires de naturalisation. D'autant que je pense qu'aussi, il y a eu des gens qui avaient des doubles passeports, ce qui n'est plus possible maintenant, puisque le Laos actuel ne reconnaît pas la possibilité d'avoir 2 passeports. Donc... C'est ce qui explique aussi donc qu'il y a beaucoup de gens qui ont opté pour la nationalité française, quoi, y compris dans les couches sociales les plus modestes.
Ils ne peuvent pas avoir une double nationalité.
Non, il n'y a pas de double passeport. Donc, ou ils sont français, et s'ils veulent se rendre aujourd'hui au Laos, ils s'y rendent comme touristes. Ils veulent reprendre la nationalité laotienne, mais dans ce cas-là, on leur demande de renoncer à la nationalité française, ce qu'ils ne font pas, parce que c'est quand même des gens qui ont un peu vécu le traumatisme de l'exode et qui ne sont pas prêts à prendre le risque de recommencer, quoi.
C'était Les Boat People qui sont venus à pied, premier volet de la série documentaire en 6 épisodes du Mékong à la Méditerranée, des femmes laotiennes dans le sud-est de la France. Un projet de Marine Richard soutenu par le dispositif Identité, Parcours et Mémoire. Mixage et astuces sonores, Sébastien Gély et Tony Regnault. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.grenouille888.org.